Cette émission est une présentation Intersport Productions.
94.5 Unique FM, les micros sont ouverts.
Bienvenue dans le vestiaire.
Il y a comme une odeur d'esprit d'équipe.
Pour les Sénateurs, c'est pas compliqué. Il faut retrouver le chemin de la victoire. Peu importe qui se présente devant nous et surtout ben, jouer à la hauteur de l'identité qu'on s'est donnée à domicile. L'occasion est rêvée. Retour à la maison pour la troupe de DJ Smith.
Voici notre promesse.
Ce qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire.
Au 94.5, voici Nicolas Saint-Pierre.
Vous l'aurez deviné, nous sommes en direct du Centre Canadian Tire d'Ottawa, théâtre du match qu'on vous propose ce soir au hockey. Véronique Lecier des Sénateurs, les Sens contre Mark Stone et les puissants Golden Knights de Vegas qui connaissent un départ canon. On en parle certainement avec quelques échos de vestiaire. Le coach en quartier qui sera là, Renaud Lavoie, Jacques Martin, Marc Schreiber, Patrick Grandmaître et J.P. Forg de La Brigade. C'est une émission condensée, mais hautement excitante et intéressante. Mesdames, messieurs, bienvenue dans votre vestiaire. Je suis en train de manquer de respire. Oh, diantre de Batatlan, comment allez-vous, mesdames, messieurs? Merci d'être avec nous. Merci de vous joindre à nous pour toute la soirée parce qu'on aura un match certainement très excitant. On le souhaite. Les Sénateurs qui ont des choses à se faire pardonner. Sénateurs qui doivent jouer avec un petit peu plus d'aplomb, façon d'un petit peu plus convaincante, mais surtout dominer la rencontre, protéger l'avance si on l'a et ficeler les fins de rencontre. Choses qui n'ont pas été faites lors des deux matchs en Floride. On a fait notre mea culpa, on a fait nos devoirs, on s'est reposé, on a pris une petite séance de patin ce matin, puis tout le monde semble dans la meilleure des dispositions. Alors, on va se souhaiter un gros match pour les locaux. On n'a pas gardé le statu quo pour la formation, on a fait quelques changements. C'est donc Tim Stutzla qui retrouve DeBrincat avec Giroux, un trio qui existait avant. On l'a défait, le coach en quartier qui avait critiqué. On revient donc à la table à dessin. Celui qui reçoit la promotion sur le premier trio, c'est pas une surprise, Shane Pinto, qui le mérite amplement. On espère qu'on va pouvoir se donner un petit peu plus de oomph sur cette ligne-là. Derek Brassard, qui prenait des répétitions avec Parker Kelly ce matin. Parker Kelly, qu'on a vu après l'échauffement matinal, prendre du temps supplémentaire. Donc, on est en droit de penser que Derek Brassard sera inséré dans la formation avec Dylan Gambrell, qui l'a eu chaud. Parce que mise en échec douteuse avec le coude, suspension, en fait, on l'a retiré du match, une majeure. On pensait qu'elle allait avoir suspension. Pour l'instant, il n'y en, en est pas question, puis il n'y en aura pas. Alors, il a échappé belle. Watson va compléter ce trio-là. Les duos, Chabot avec Brandstrom, Sanderson avec Amonic, ainsi que Holden et Zaitsev devant la cage. Aucune surprise, Anton Forsberg. Mais petite surprise au niveau de l'auxiliaire, parce que ce sera Cam Talbot qui enfilera le chandail d'auxiliaire. Et on peut penser qu'il sera d'office pour le match de samedi à domicile contre les Flyers de Philadelphie. Donc, c'est une chose à regarder et à surveiller pour la prochaine rencontre. Mais avant de parler du match contre les Flyers, il faut parler du match de ce soir. Les Golden Knights s'amènent ici avec une séquence de 5 victoires, 9 victoires, 2 défaites. C'est leur fiche depuis le début de la saison. Le plus gros différentiel, but pour, but contre. 35 buts pour, 19 buts contre, différentiel de plus 16. Une équipe qui ne donne pas beaucoup de chances de marquer ou du moins se sacrifie. 229 lancés bloqués, c'est un sommet en Ligue nationale de hockey. À titre comparatif, les Sénateurs font piteux à ce niveau. 123 lancés bloqués, 26e à chapitre. Et ça, c'est une chose qui faisait partie de l'identité qu'on voulait se donner chez les Sénateurs cette année. Alors, il faudra trouver une façon de prendre son courage à deux mains et se sacrifier, se placer dans les lignes de tir. C'est dans le plan de match du coach pour l'année. Il faut commencer à livrer la marchandise. Par le saut aujourd'hui dans le monde du sport, il y a la Série mondiale qui se poursuit avec le match numéro 5. Il faudra rappeler une chose, c'est que ce sera Verlander pour Houston contre Syndergaard au Monticule pour les Phillies. Après avoir subi une varlope de 7-0 dans le match numéro 3, disons que dans le match numéro 4, les Astros ont rebondi de brillante façon en l'emportant 5-0. Hâte de voir le résultat pour le match de ce soir. Dans la NFL, il y a un match du jeudi soir, vous l'aurez deviné. Et c'est un match où on va surveiller les Eagles qui vont tenter de garder leur fiche parfaite, qui est de 7-0 en ce moment. Affrontent une équipe qui est dans leur portée, on va le dire comme ça, les Texans de Houston. c'est sûr que Hurts fait le travail, mais A.J. Brown est une des coqueluches des fans de la NFL en ce moment pour les bonnes raisons. Quelle acquisition! On va voir si on va pouvoir continuer sur cette lancée ce soir. On va regarder ça en parallèle avec le match au hockey. Véronique Lesueur des Sénateurs. Une émission condensée, il faut être discipliné. Le coach est à nos côtés pour décrire la rencontre. On va mettre la table pour justement ce face-à-face. Coach 1, petit changement sur les trios. C'est tout ça qui retrouve DeBrincat et Giroux. C'est une erreur qui vient d'être réparée.
Mais là, je travaille avec ma petite calculette en passant. Là.
Oui.
Je ne sais pas si tu es familier avec ça, des petites calculettes.
Oui.
Alors, non, je ne suis pas en train de calculer les nouveaux taux d'intérêt là, à taux variable. Ouais. C'est 1,72 buts alloués par match chez la formation de Vegas.
1,73, oui, ils disent
ouais, 1,73. C'est ça. Ben, bon, tu as raison. 1,727. Alors, je te l'accorde, je te le donne. Surtout qu'il n'y a plus de change. Ça n'existe plus bien.
C'est
hein,
vrai. Hein?
Le petit change est en carte de plastique. Il n'y a plus nécessairement d'argent sonnant. On en a parlé un peu hors d'onde, Nicolas, avant que tu rentres dans l'émission dans le vestiaire. Hein, c'est, regardez, faute avouée à demi pardonner. Je le sais pas. Écoute, j'en ai fait l'exposé la semaine dernière, dans le sens c'est que avec tous les changements qu'on a apportés là, dans l'entre-saison, pour moi, il n'y avait aucun doute qu'on avait joué avec le puzzle, la charte de profondeur. Puis là, on se disait, c'est les deux types de vétérans, ligne nationale. On a un finisseur, on a un Stutzla passeur, le vécu d'un Claude Giroux. On s'est dit, c'est le bon fit, c'est la bonne combinaison pour se doter vraiment d'un top 6 au niveau de la formation ottavienne. Déjà là, qu'on avait un trio avec un certain succès par rapport à la précédente saison, qui était Brady Tkachuk, Drake Batterson, ainsi que du côté de Josh Norris. Alors, Josh Norris, bien connu, un début de saison boiteux avant la blessure. Alors, on parle de blessure à long terme dans son cas. Lui qui connaissait, n'avait pas nécessairement le rendement où qu'on s'attendait par rapport à celui-ci. Drake Batterson, ça l'a traîné de la patte, hein, de patte. Et on s'est aperçu assez rapidement, je te dirais, à tort, où je trouve qu'on a peut-être réagi un peu trop rapidement, hein, dans le sens de dire, OK, bien là, on va ramener Stutzla. Je pense que t'as rendu au match numéro 2 ou match numéro 3. Parce qu'on avait perdu les deux premiers matchs, t'en souviens, sur la route. Là, on a ramené Stutzla parce que là, ben, peut-être qu'il est intimidé, tu sais, par la présence, tu sais, de l'aura Claude Giroux, les qualités de finisseur de DeBrincat. Puis en bout de ligne, mais DeBrincat, il cherche. Tu sais, on commence à parler de plusieurs joueurs là, qui se cherchent, les Sénateurs. Et là, puis je le dis, là, ça y appartient, là. Ça y appartient, mais j'enlève rien, là. Mais là, bon, c'est vrai que la blessure à Norris amène à cette situation-là, mais Pinto est parti du 3 à 2. Puis là, il est rendu à la première. Et là, on ramène dans la lecture qu'on en a fait à l'interne. Oh, ça ne fonctionnera pas. Puis là, on va le ramener, puis on va essayer des choses. Mais regardez, la première, c'est que dans le cas des Sénateurs, une donne qui ne change pas, c'est qu'on n'a pas compétitionné au cours des deux derniers matchs. Puis ça, des fois, c'est pas juste une question de talent, c'est une question de vouloir. Tu mentionnais tantôt la formation de Vegas au niveau des tirs bloqués, comment les statistiques étaient impressionnantes chez cette formation-là. Je me répète, c'est pas une question de talent, c'est une question de vouloir. Mmh. Vouloir s'imposer les sacrifices, il y a des prix à payer dans ces situations-là. Alors, ben oui, il y a déjà de la chaleur sur l'équipe locale. Et là, il ne faudrait pas se fier seulement parce qu'ils ont une fiche de 4 victoires, une défaite cette saison. Or, quand on vient à maison, c'est un petit peu plus facile. Non, on a perdu notre dernière face au Wild du Minnesota ici. Et c'est pas une équipe nécessairement de pied de céleri qui se présente. 8-2 à leurs 10 derniers matchs. 9-2-0 depuis le début de la saison. Alors, on est mieux d'être affilé là, chez les Sénateurs d'Ottawa. On est mieux d'être prêt dès le départ face à une formation présentement qui carbure tout simplement la confiance, malgré qu'elle est privée de Robin Lehner, Laurent Brossoit. Et pourquoi je parle de ces deux-là? C'est parce qu'à la base, Logan Thompson et Haddon Hill ont des statistiques impressionnantes depuis le début de la saison. 9,38 et 9,40 au niveau du taux d'efficacité. C'est présentement, au niveau du taux d'efficacité, c'est le meilleur duo Ligue nationale d'hockey.
C'est certainement une équipe à prendre avec des pincettes. Puis, il faudrait quand même faire un lien avec les succès qu'on voit en ce moment pour une équipe qui a raté les séries l'an dernier, rappelons-le. On a ramené cette équipe-là dans le droit chemin, pardonnez-moi, Bruce Cassidy. Ouais. Puis les deux meilleures formations de Ligue nationale d'hockey en ce moment sont coachées par deux entraîneurs qui arrivent cette année.
Oui, puis une de ces formations-là qui va très bien, ben, l'entraîneur se retrouve avec. Non, mais il se retrouve avec derrière le banc de la formation de Vegas. Écoute, moi, là, honnêtement, tu sais, on dit souvent, tu sais, dans la vie, Nicolas, c'est une question de timing. Pour Vegas, la situation Bruce Cassidy, le congédiement de Bruce Cassidy, ça nous a amené à se poser beaucoup de questions. Et moi, ça me fait penser, j'en faisais un parallèle dernièrement, c'est que même les années à succès de Jacques Martin, lorsqu'on a congédié Jacques Martin, j'avais eu beaucoup de difficultés dans le 24 heures suivant. Bon, de la difficulté à détacher l'aspect professionnel de l'aspect personnel. Et par la suite, après avoir écouté John Mockler, j'ai mieux compris l'argument. Tu sais, c'était appuyé par de l'argumentaire. Jacques Martin, c'est pas un mauvais coach. Il faut changer la vocalise pour amener les joueurs à un autre niveau. Alors, chez les Bruins de Boston, j'ai le sentiment que là, il y a un moment donné, est-ce qu'on a été visionnaire? Je ne le sais pas. Mais on s'est dit, il faut changer la vocalise. Montgomery fait de l'excellent travail. Et on avait le même sentiment avec la formation de Vegas. On a laissé partir Peter DeBoer.
Il va bien avec Dallas.
Il va bien avec Dallas. Alors, tu sais, des fois, c'est même pas une question. On a-tu des compétences ou pas compétences, surtout au niveau des vétérans entraîneurs. Mais des fois, c'est une question de message qui ne passe plus nécessairement. Alors, on juge tout simplement bien de procéder à un autre appel. Mais, je me répète, derrière le banc de Vegas, question de timing. Bruce Cassidy est devenu disponible. Je pense que pour eux, ça a été. Ben, actuellement, ça nous prouve que ça a été définitivement le bon choix.
On le retrouve dans l'avant-match du CECCE. Hockey Véronique Le Sieur des Sénateurs, les Sens contre les Golden Knights. À tantôt, coach. On se tourne vers le téléphone. Allons rejoindre l'informateur LNH, Renaud Lavoie. Renaud, comment vas-tu?
Salut, Nicolas. Ça va très bien, merci. Écoute, j'écoutais le coach parler, là.
Oui.
Puis, tu sais, il a tellement raison. Je veux dire, c'est fou comment il a raison. Mais. C'est seulement la Ligue nationale de hockey qui pense comme ça. Le message. On est tanné de l'entendre, le coach. Après 3 ans, 4 ans, votant. Hey, ça n'a pas de bon sens. Cette culture là, du congédiement, là, que c'est toujours la faute de l'entraîneur, c'est hallucinant. Au basketball, des coachs qui sont là depuis 10-12 ans. Dans la NFL, c'est incroyable comment. Tu regardes les Steelers de Pittsburgh, pas besoin de parler aussi de notre ami Belichick avec les Patriots. Tu sais, dans la tempête, on garde le cap. Dans la Ligue nationale de hockey, c'est comme des bonbons M&M. Là, sais-tu, on a mis la couleur bleue. Là, aujourd'hui, c'est plus le jaune. Le noir. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé un petit M&M noir. Le rouge. C'est du niaisage. C'est honnêtement là, du niaisage de voir le nombre d'entraîneurs au cours des années qui se font interchanger juste pour la fameuse phrase « Hey, on a besoin d'une nouvelle voix ». Comme si les joueurs, là, c'était des hommes des Cro-Magnon.
Mais ça montre pas, justement l'importance qu'on donne au rôle d'entraîneur. Si on change à qui mieux comme ça, je veux dire, vous êtes des valeurs interchangeables, c'est ce que je veux dire là.
Mais
je comprends, puis tu as raison. Moi, ce que j'aime, la tendance, c'est que tu respectes... Au football, là, tu respectes le coach. Le coach est roi et maître. Il prend toutes les décisions, puis il est là pour longtemps, dans la plupart des cas. Puis ça vous montre que l'importance du rôle de coach pour une organisation...
Mais quand on a un bon, là... Je veux dire... Joel Kenville, je sais qu'il y a eu des affaires qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, il ne coach plus dans la Ligue nationale. Mais tu sais, les Blackhawks de Chicago, là, avec ou sans Joel Quenneville, quand est-ce qu'ils ont été meilleurs? Jamais. Ils commencent à être bons. Là, ils causent une petite surprise. Ça ne durera pas longtemps. Mais tu sais, c'est ce que je veux dire. Bruce Cassidy, je veux dire, Bruce se retrouve dans une situation où on a besoin d'un changement de voix. Peut-être qu'il y a des choses dans le vestiaire qui ont été faites. Aussi qu'on s'est dit qu'on n'a comme pas le choix d'avoir un changement. Peut-être qu'aussi, c'est bon pour l'entraîneur lui-même de se trouver une nouvelle franchise. C'est de recommencer à zéro à quelque part après un 5, 6, 7 ans. Peut-être que c'est moi qui est dans le champ. Mais j'adore ce que le Lightning fait avec John Cooper. Hey, c'est impossible. Même s'il y en a eu des crises à l'interne, là, puis on les connaît pas, là. Je ne dis pas que John Cooper est parfait, là, mais il y en a eu des tempêtes. Il y a toujours des tempêtes dans une organisation. OK? Peu importe où on, au moment de l'année.
C'est comment tu gères.
Tous les jours. C'est ça. C'est comment tu gères. C'est comment tu es capable de t'en sortir. Comment tu es capable de rendre ton équipe meilleure. Puis des tempêtes, tu vas toujours en avoir. Tu vas toujours avoir un dossier que tu ne t'attendais pas à régler. C'est ça l'ADN du sport d'une manière ou d'une autre. Mais chez le Lightning, on a décidé qu'on gardait le cap, qu'on ne regardait pas le voisin ou la voisine pour voir si le gazon était plus vert. « Ouais, aujourd'hui, il est un petit peu plus vert, il a l'air mieux coupé. » Non. Non. On va garder notre gazon, on va travailler avec notre gazon, on va rendre notre gazon meilleur, on se fout du voisin. À un moment donné, c'est ça qui me dépasse, parce qu'on parle de grands entraîneurs qui font tout un job où ils se retrouvent, puis c'est comme je te dis, des bonbons M&M. Oh, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé un petit rouge. Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé du bleu, je prendrais du bleu. Hey, Seigneur, là. Ouais. Je trouve que c'est toujours à recommencer, puis je pense pas que c'est la bonne philosophie à avoir.
Si tu es dans l'uniforme des Sénateurs ce soir, tu regardes l'adversaire de ce soir, est-ce que le Vegas, pour toi, c'est une équipe qui te fait peur?
Très peur. On peut parler des Devils comme une surprise, dans le sens que...
Les Devils, très belle surprise.
Ouais. Mais les Devils, je pense qu'ils ont gagné leurs 5 derniers matchs, je les mets dans une autre catégorie.
Oui.
Ils dominent, là, ils écrasent l'adversaire partout où ils passent présentement. Alors que les Golden Knights, qu'est-ce qu'on s'est dit au cours de l'été? Oh là là, les Golden Knights, eux autres, là, leur fenêtre, là, elle vient de passer, ils n'ont plus leurs deux premiers gardiens. Comment on va être en mesure de relancer cette franchise? Et là, t'as Bruce Cassidy qui arrive, évidemment, puis qui change un peu les données, qui redonne espoir à ce groupe-là. Un bon groupe, quand tu regardes les attaquants, les défenseurs, c'est le challenge qui attend les Sénateurs ce soir, comme les Canadiens samedi. Les gros, gros challenges, les gros défis. Puis en tout cas, de toutes les équipes de l'Ouest que j'ai vues jouer, jusqu'à présent, c'est celle qui me fait le plus peur et celle qui cause, selon moi, la plus grande surprise aussi, parce que c'est une machine de hockey. Alors, il faut que ça se poursuive pour eux aussi. Si tu me demandes deux surprises, dans l'Est, c'est définitivement les Devils. Puis dans l'Ouest, c'est sûr que je suis obligé de dire les Golden Knights. Malgré la qualité des joueurs, là, je pensais jamais qu'ils allaient avoir un aussi bon début de saison.
Ça te dérange pas parce qu'on va parler un peu de la vente, encore une fois, des Sénateurs, mais j'aimerais t'entendre sur une question un peu technique. Parce que dans le contexte d'une vente d'un club, à quel moment le directeur général n'a plus les coudées franches pour procéder avec carte blanche?
Non, ça, t'as pas à t'inquiéter là, présentement. Là. Regarde avec les Penguins de Pittsburgh, tu comprends?
Oui.
Je sais qu'il y a un moment, par contre, de transition. Là. C'est surtout quand le nouveau propriétaire arrive, OK? Donc, où le nouveau groupe de propriétaires arrive, il y a une période de transition où, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de décisions qui sont prises par la très, très haute direction. C'est plus nécessairement le directeur général là, qui peut commencer à prendre de très grosses décisions, malgré que, je te donne un exemple, là, quand c'est le temps de signer Chris Letang, c'est sûr que lui devait parler à son groupe. Peut-être que, si tu regardes la vente qui a été faite l'hiver dernier, c'est si tu regardes les négociations, les non-négociations avec Chris, peut-être que ça venait justement de là, du fait qu'on était en pleine transition, puis que Ron Extall n'avait tout simplement pas de pouvoir pendant une certaine fenêtre de commencer à signer des joueurs. Tu comprends?
Ouais.
Ça s'est fait comme tout le monde le sait par la suite, là, parce qu'il faut que tu l'aies le pouvoir. Alors, c'est sûr que c'est une période de transition pour tout le monde. À chaque fois qu'il y a un nouveau propriétaire qui embarque, que ce soit, il n'y a pas un employé dans l'entreprise qui se sent en sécurité. Ça, c'est toujours comme ça. Quand la vente des Pingouins s'est faite, il y a des employés des Pingouins qui venaient me voir en me disant, ouf, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Et puis, il n'y a rien arrivé, il n'y a personne qui a perdu son emploi. Mais ça reste quand même des périodes de transition qui sont importantes et des périodes de transition qui créent beaucoup d'incertitudes, non seulement dans le département hockey, mais je te le dirais ailleurs aussi, dans l'organigramme de l'équipe.
Puis l'impression que j'ai, c'est que on semble attendre puis rôder autour, mais Ottawa semble définitivement un marché très sexy pour les investisseurs. Ben, 48 heures après seulement l'annonce de la mise en vente, là, on ne cesse d'avoir des noms qui circulent. Puis là, le dernier, ben, selon le magazine People, le très populaire acteur Ryan Reynolds.
Oui, et je te dirais avec raison.
Ouais.
Mettons quelqu'un qui a de l'argent, là, qui est un fan de hockey, là. Des équipes à vendre, là, il n'y en a pas une tonne. Des équipes canadiennes à vendre, la dernière fois, c'est les Maple Leafs de Toronto, parce qu'en panique, Rogers et Bell se sont dit, on ne peut pas perdre les Maple Leafs, il faut qu'on achète ça, parce que sinon, les droits de télé, on ne pourra pas les contrôler.
Ouais.
Tu veux contrôler les droits de télé à Toronto. C'est pour ça que Bell et Rogers se sont attaqués aux Maple Leafs de cette façon-là, avec une... Tu sais, je veux dire, que tu penses... C'est comme si Québécois et Bell achetaient une équipe de la Ligue nationale. Ça serait jamais vu, mais pour protéger les droits de télévision, c'est ce qu'on a décidé de faire à Toronto, ce qui, quand tu y penses, là, c'était la décision à prendre. Bon, maintenant, t'es multimillionnaire. Bon, je pense pas que Reynolds, il y a 700 millions qui traînent dans son compte de banque, mais il y a pas mal d'amis. Puis là, tu te dis, quelqu'un qui a moindrement d'argent, puis c'est pour ça que ce que Jeff Molson a fait, c'est extraordinaire. Jeff Molson, propriétaire, qui a mis le plus d'argent, mais il n'est pas le seul propriétaire. C'est celui qui est à l'avant-scène. Il y a quand même 6 autres actionnaires dans l'organigramme. Donc, qui sont, si tu peux, qui ont mis beaucoup d'argent. On parle d'un 500, 550 millions quand les Canadiens ont été achetés. Aujourd'hui, on dit que ça vaut 1,7 milliard. J'y crois pas, là. Ça n'a pas de bon sens, là. Mais est-ce qu'on pourrait mettre ça à 1,4 ou 1,3? Oui, probablement. Hein? Ça ferait du sens. Bon, maintenant, les sénateurs d'Ottawa, eux, se retrouvent dans une situation où il y a du monde qui a beaucoup d'argent. Puis qui regardent ça et qui se disent, mon rêve, c'est d'avoir un club de la Ligue nationale et de gagner la Coupe Stanley. Une équipe canadienne en plus, c'est extraordinaire parce qu'elle a, selon moi, un peu plus de valeur. Dans le sens que les revenus au Canada sont toujours plus élevés qu'ailleurs. Ouais. Même si Ottawa est relativement un petit marché, tu sais qu'au Canada, tu n'es pas obligé de convaincre au Canada les gens d'aller voir du hockey. Je veux dire, c'est le sport national. À partir de ce moment-là, puis tu regardes les sénateurs, l'équipe, tu regardes le projet où on veut mettre une nouvelle...
Les Plaines le Breton.
Les Plaines le Breton. Là, tu te dis, hey, ça, là, c'est un diamant. Et oui, c'est un diamant. C'est un très beau diamant, les sénateurs d'Ottawa, qui mérite qu'on s'y attarde. Et c'est ce que plusieurs investisseurs font présentement. Parce que, avec raison, il y a une valeur à aller chercher cette franchise-là. Si tu me dis, hey, Renaud, les Coyotes de l'Arizona sont à vendre. Même si c'est moitié prix, là, que l'amphithéâtre, ça ne sera jamais moitié prix, là, mettons, tu te dis, tu as le choix, Renaud, entre les Coyotes à 450 millions ou les sénateurs d'Ottawa à 700 millions US.
Ouais, ouais.
C'est 1 milliard canadien, là, presque. Je vais prendre les sénateurs bien avant. Parce que l'incertitude qu'il y a du côté des Coyotes, là, puis j'écoutais mon ami le Bear, là, hier, qui était fâché,
ouais,
la radio aussi, parce que André Tourigny était fâché parce que les journalistes de Montréal sont arrivés là-bas pour écrire des articles négatifs à l'endroit des Coyotes.
L'organisation.
Ouais, je comprends qu'il veut défendre son entreprise. Là. OK, je comprends tout ça. Là. Mais en attendant, on n'est pas sûr qu'il va y avoir une nouvelle entente à TMP. Là, on parle d'un référendum. OK? Puis, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, là, ça demeure inacceptable de jouer dans un édifice de 5 000. T'as bien beau me dire, ah, c'est le fun, c'est le party là-dedans. Hey, voyons donc, finis-tu, là. Préfère le party que tu veux, là. Je veux dire, t'es sûr de jouer 3 ans là minimum. On va arrêter, là. C'est totalement illogique. Et c'est pas contre André Tourigny. C'est pas contre les Coyotes de l'Arizona. C'est contre la situation.
Ouais.
C'est complètement loufoque et inacceptable. Inacceptable. Même si André trouve qu'on ne devrait pas parler comme ça, ben c'est bien plate. Mais des équipes de la Ligue nationale d'hockey ne devraient pas jouer dans un amphithéâtre de 5000 personnes, comme les Sénateurs, lorsqu'ils sont arrivés, rappelle-toi, au début des années 90, qui jouaient dans un
amphithéâtre.
Au centre municipal, qui n'était pas, même si c'était bien le fun d'y aller, en passant, mais ce n'était pas un amphithéâtre Ligue nationale. Alors, mais on a réglé le problème. On a construit ce qui est devenu, comme tout le monde le sait, le Palladium. Aujourd'hui, on veut s'en débarrasser du Palladium. Correct. En attendant, là, on va revenir à notre prémisse de départ. Tu es un investisseur. Premièrement, tu vas acheter ton équipe de hockey. Deuxièmement, il y a toujours bien un amphithéâtre présentement qui est monté, là. Je veux dire, oui, il n'est pas jeune, mais je veux dire, il n'a pas l'air complètement désuet. Ça n'a pas l'air d'une dompe. Je veux dire, c'est bien correct. C'est bien plate que ce soit dans un champ puis que lorsqu'il fait moins 20 avec du vent, il fait moins 40. Puis que les spectateurs sont obligés de se taper ça. Bon, juste la circulation. Mais si ton projet, en plus, c'est de t'installer au centre-ville d'Ottawa, oh ben là, mon cher ami, ça va être une mine d'or. Parce que tu vas aller chercher des nouveaux partisans. Parce que les gens de Hull, Gatineau, Elmer vont dire, hey, moi, quand je viens de travailler, je traverse le pont. Ouf! À Ottawa, je vais juste prendre un petit match. Je m'en vais voir les Sénateurs jouer ce soir. Pas mal moins compliqué. Mais autour de cet amphithéâtre-là, tu peux te créer un... Comme, tu sais, j'étais à Saint-Louis, j'étais dans le secteur où les Cardinals ont leur stade, le Busch Stadium. Le Busch Stadium qui a été construit au début des années 2000, 2005, 2006. Puis ce que c'est aujourd'hui, là, wow! C'est extraordinaire ce qu'ils ont réussi à faire. Mais tu es capable justement de créer quelque chose autour de l'amphithéâtre à Ottawa, d'extraordinaire aussi, où ça va être agréable pour les gens de se déplacer, d'aller manger dans les restaurants, que ça soit convivial.
Il s'agit
c'est
de
ça qui est le fun.
Il s'agit de ne pas se tromper dans un projet titanesque comme celui-là. Et Dieu sait que dans l'histoire, on nous a montré que des fois, quand des pousseux de crayons et des cravatés se mêlent dans tout ça, on peut en faire des gaffes. Mais pour l'instant, on va attendre de voir qui sera les ou le heureux élus pour porter propriétaire des Sénateurs. Pour l'instant, on va se laisser là-dessus. On souhaite un bon match ce soir, les Canadiens contre les Jets à Winnipeg. On s'en parle la semaine prochaine. Bon week-end, mon ami.
Bon week-end, Nicolas.
Renaud Lavoie, mesdames, messieurs, de TVA Sport, qu'on peut entendre deux fois la semaine sur nos ondes, les mardis et les jeudis à 7h06. Il y a plusieurs matchs ce soir en Ligue nationale de hockey. C'est 13 au total. Et comme j'ai dit en prémisse, ben, il y a le Canadien qui va visiter les Jets à Winnipeg. Il y a Dallas contre l'Arizona, les Flames qui reçoivent les Predators de Nashville, Washington à Détroit. Seattle, Minnesota, et, les Rangers qui reçoivent Boston, les surprenants Bruins de Boston, les Kings à Chicago. Il y a également Vancouver qui reçoit Anaheim, Tampa qui reçoit la Caroline, les Islanders, eux aussi surprenants, ont gagné leurs quatre derniers. Islanders visitent les Blues à Saint-Louis, finalement la Floride contre les Sharks à San Jose. On va rejoindre Jacques maintenant, Jacques Martin qui nous attend. Oh, il n'est pas là pour l'instant. Alors, je ne sais pas si on est capable de faire entendre un petit bout du point de presse de Tim Stutzla, qui lui va rejoindre Giroux et Debrincat. On va entendre Stutzla. Par la suite, on passera à Jacques Martin sans plus tarder. Écoutons la nouvelle d'aujourd'hui. Stutzla qui retrouve Debrincat et Giroux.
I mean, I think we started off pretty good here at the homestand, where I played pretty well too. And then the last games we lost, I mean, I played really, really bad, I think. But in the end, you're going to have bad games. I think for me, it's the most important is to get out there and just play hard every night. And we got to defend way better than we did the last couple of games.
And as you look at kind of just changing up the lines a little bit, do you look at this as, hey, just an opportunity to try new line mates and see if something can click for you?
Yeah, I think in the end, we have a lot of really good players in here, so it doesn't really matter who you play with. For me, it's the most important right now is focus on my game and just be better every night. I think that's the biggest part for me.
This is probably the biggest test of the season so far. They're 9-2-0, you know, best in the West over there. Guys like Jack Eichel as well, of course, having a great season.
For sure. I think when you look at their team, I think they're really stacked all over the lineup. But I think, like I said, if we play the way DJ wants us to play, I think we have a chance to win against any team. And we just got to work way harder than we did the last couple of games. And that's the biggest thing for us.
Is the work effort the biggest thing that's, you know, kind of differentiated between home and away games? I mean, the record's obviously completely different. What's the biggest difference in your mind between you you guys here and you guys away?
I think just playing smarter. I mean, on the road, I think it's definitely the harder game to play every night. I mean, you have the last matchups too there, so it's definitely hard to play on the road. But in the end, it's just managing our game. I think when you lead the games, I mean, in Florida, I think we were staying in the game even we were playing bad. So, I mean, just manage the game there and make smarter decisions, especially by me there too. I mean, I want to step up my game and be better there.
Bien qu'ils reconnaissent qu'il y a une différence entre les matchs à domicile et les matchs à l'extérieur, c'est une façon de gérer la rencontre. Depuis le début de la saison, un peu déçu, mais il dit, c'est de retrouver mes repères tout simplement, ça va venir. Content de retrouver ses compagnons de trio de Brincat et Giroux. Il dit, peu importe avec qui on se retrouve, on a plein de talent ici. Alors, c'est facile de justement produire. Alors, on va espérer que lui et sa troupe soient capables de produire contre les Golden Knights au hockey. Véronique Lecier, les Sénateurs, à 19h, l'avant-match du CECCE à 18h30. Discutons pour suivons la discussion hockey avec Jacques Martin. Jacques, comment vas-tu?
Ça va très bien, Nicolas.
Jacques, tout d'abord, ton impression sur l'annonce de la mise en vente incessante là, des Sénateurs d'Ottawa. Ton impression là-dessus?
Bien, je pense que c'était à prévenir. Je pense que c'était quand même avec le décès de M. Melnyk, je pense qu'il fallait s'attendre à la vente de l'équipe. Puis je pense que ça devrait être bien pour l'organisation, pour la ville. On a vu dès cet été, par exemple, avec peut-être un changement en ce qui concerne l'aspect de finances. On a fait des échanges, on a acquis des joueurs d'expérience comme Claude Giroux, DeBrincat. Donc, on est allé chercher des vétérans. On a signé des gars à long terme. Donc, pour l'organisation, je pense que ça va être important d'avoir un nouvel ownership. Puis, on espère qu'en même temps, avec ce nouveau ownership-là, que l'équipe va se retrouver au centre-ville, comme ça avait été une possibilité, je pense, il y a 3-4 ans passés, qu'il y avait eu un mouvement pour ça.
On espère que ça va se concrétiser, effectivement. Sur la glace, dans ce voyage en Floride qui n'a pas souri aux Sénateurs, on a parlé surtout de l'incapacité de bien gérer le match, surtout de bien terminer nos rencontres. Je pose la question comme ça au point de vue du coach. Les fins de match qu'on n'est pas capable de gérer, est-ce que c'est plus une question mentale ou technique, selon toi?
Je pense que c'est un peu des deux, Nicolas. Je pense que sur le point de vue mental, oui, c'est d'avoir la confiance de pouvoir bien terminer, d'être capable disons, de fermer le jeu, de bien donner une bonne protection à ton gardien de but, de minimiser les chances de marquer contre toi, donc continuer à attaquer, mais être bien positionné. Et comme je le mentionnais sur le point de vue technique, ben c'est faire sûr qu'on donne pas de surnom en attaque, qu'on est bien positionné défensivement et que on sait que l'équipe adverse souvent va ouvrir le jeu.
C'est sûr qu'ouvrir le jeu, c'est hyper important. Je vais te laisser enlever le choc que tu as dans la gorge, Jacques. Puis je vais te laisser merci. Reprendre.
Merci, Nicolas. Mais c'est ça, donc être capable donc, de bien fermer, donner une bonne protection au gardien de but et avoir la confiance donc, d'être capable de gagner un match par un but.
Il y a une formation qui s'amène ici, les Knights de Vegas, bien qu'on connaisse toujours que la mission première de ce club-là, c'est de gagner la Coupe Stanley, considérant qu'ils ont raté la série l'an dernier, ce début de saison-là, je les mettrais dans la catégorie des équipes surprenantes. Mais si tu avais à choisir, justement, la formation qui te surprend le plus depuis le début de la campagne, ce serait laquelle?
Je pense que ce qui me surprend un peu le plus, c'est, je sais pas si c'est une équipe comme telle, mais peut-être la parité. Surtout dans l'Est cette année, si on regarde à part de Columbus, après une dizaine de parties, tout le monde est en position de pouvoir faire les séries éliminatoires. Fait que je pense que ça va être vraiment intéressant. Ce qui m'impressionne probablement le plus, c'est le début de saison des Bruins de Boston, c'est sûr.
Ouais.
Et lorsqu'on a parlé à l'été, l'absence de Marchand, l'absence de McAvoy, le meilleur défenseur, Grizzly. Donc, trois joueurs clés qui leur manquaient en début de saison. Et on a vu, ça n'a pas affecté la performance des Bruins. Donc, faut leur donner crédit. Mais l'élément qui est intéressant pour le hockey, c'est la bataille qu'on devrait voir jusqu'à la fin de l'année pour les équipes qui vont pouvoir mériter une place en séries éliminatoires.
j'ai le goût de te poser une question du champ gauche, parce qu'à voir comment il fonctionne en ce moment, un rythme effréné, c'est 11 buts, 11 passes, 22 points depuis le début de la campagne pour Connor McDavid. Je vais t'inviter à te remémorer tes meilleurs souvenirs. Puis si tu avais à choisir entre McDavid et Wayne Gretzky pour bâtir son club, lequel tu prendrais?
Bien, je pense que c'est une question qui est très difficile. On sait que McDavid, c'est un excellent joueur. Gretzky, l'été, c'est une super vedette. Puis, c'est le nombre de Coupes Stanley, le nombre de championnats qu'il a gagné. Je pense qu'on sait que McDavid, c'est un jeune joueur. Puis, il faut que tu aies une équipe aussi pour te supporter. Mais je pense qu'il faut quand même aller avec Gretzky, qui a été le meilleur joueur donc, pendant plusieurs années et qui a été capable donc, de dominer sur un point physique, mais aussi être capable de gagner des championnats année après année.
Sachant qu'il nous écoute, Wayne Gretzky sourit en ce moment en entendant les paroles de Jacques Martin. Je vais te laisser avec la dernière question, puis je veux parler un peu du plan de match de ce soir pour les Sénateurs. On a parlé des problèmes de sortie de zone dernièrement pour les Sénateurs, puis on m'a avoué même qu'on allongeait un petit peu trop la ligne centrale. Parle-moi de l'importance d'une cohésion défenseur-attaquant pour cette phase de jeu-là, c'est important.
Mais je pense que c'est très important d'avoir les avants qui vont se replier. Puis, oui, c'est sûr que des fois, tu vas avoir un stretch, tu vas peut-être avoir un des alliés, un avant qui va ouvrir de la glace. Mais il faut quand même, je retrouve que les équipes qui sont vraiment efficaces en général sont les équipes qui préconisent les passes courtes. Donc, il y a beaucoup de support pour le porteur de la rondelle, donc les joueurs doivent se replier et travailler en groupe de cinq. On sait que souvent, maintenant, en zone défensive, on voit cinq gars dans un quart de la zone défensive. Donc, les gars sont très proches un de l'autre. Et c'est d'avoir l'habilité de pouvoir faire référer le joueur qui est ouvert et faire sûr qu'il y a plus d'une option lors des sorties de zone, qu'on a un bon support pour cette première passe et pouvoir continuer l'attaque. Et une équipe comme Ottawa qui peut contrôler la rondelle souvent. On regarde maintenant le jeu souvent, c'est avec un bon support, c'est de rentrer en zone offensive avec contrôle de la rondelle.
On va espérer que le plan de match puisse fonctionner parce que ce soir, c'est les grosses pointures qui s'amènent les Golden Knights. Bonne chance aux deux formations. Un gros merci, Jacques, du temps que tu nous accordes. On se dit à la semaine prochaine.
Toujours un plaisir. Bonsoir.
Au revoir. Tout le monde ne cesse de parler que de Ryan Reynolds comme étant, écoutez, là, un nom qui sort comme tout le monde, mais j'aimerais-tu qu'on se calme un tout petit peu? Là on ne va pas arrêter là, de parler là, de tous les vendeurs ou les acheteurs possibles, mais arrêtez de vous concentrer seulement sur Ryan Reynolds. La seule chose qu'il a fait, lui, c'est de commenter un Twitter où on disait « les Sénateurs sont à vendre » et Ryan Reynolds qui a fait un emoji en montrant deux petits yeux qui regardent. Donc, est-ce qu'il a manifesté un intérêt? On ne l'a pas encore, mais là, arrêtons de s'émoustiller du moment qu'on entend un nom. Il y en a d'autres pas mal intéressants. Je pense à M. Desmarais, André Desmarais, qui était un des promoteurs, justement, en liste pour le projet initial des Plaines-le-Breton. Il y a bien des gens qui vont affluer pour se porter acquéreur, à savoir quelles personnes on va choisir ou quelles seront les personnes qui sont choisies. Là est la question, mais ça va demeurer un suspense jusqu'à la conclusion de ce roman savon. Parlons un peu de football dans ce match du jeudi soir. On dit non, pas tout de suite. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite pause et on va revenir avec la suite des choses. Mesdames, messieurs, nous sommes dans le vestiaire, une version écourtée jusqu'à 18h30. Peut-être qu'on va déborder. Il y a Patrick Grandmaître et de la brigade également, JP Ford. Mais tout d'abord, on parlera de football avec Marc Schreibert. Dans quelques instants, vous êtes dans le vestiaire au 94.5 Unique FM.
Voici le nouveau loto 649. Deux gros lots sur chaque billet. Le gros lot classique de 5 millions de dollars et le gros lot progressif de la boule d'or de 10 millions de dollars. Vous voulez travailler en français? Vous aimez travailler avec les enfants? Si oui, le MIFO recrute pour des postes d'éducatrice, coordonnateur et plus encore. Pour trouver les emplois disponibles, visitez MIFO.ca.
Il était une fois une célébration de Noël traditionnelle à Castlemaine. Le festival de Noël est finalement de retour. La corporation de la revitalisation du centre-ville de Castlemaine est fier de dévoiler leur retour du jeudi 1er décembre au dimanche 4 décembre 2022 dans l'Est ontarien. Des matchs de hockey, des spectacles, le Père Noël et beaucoup plus. Tout pour célébrer le temps des fêtes. Venez vivre la magie du festival. Visitez le www.castlemainfestival.ca pour tous les détails.
Écoutez vos émissions préférées où vous soyez grâce à l'application mobile Unique FM. Disponible sur Apple Store et Google Play, faites une recherche pour Unique FM en un seul mot. Tous les styles de musique s'y retrouvent. Quels sont les vôtres? Musique franco, country, classique, latine, dance, rétro, disco, musical. Bref, tout y est. Téléchargez l'application Unique FM dès aujourd'hui afin d'en profiter dès maintenant. Unique FM, votre radio franco de la capitale. Piste de danse, animée par notre DJ Denis Chénier.
Ici Denis Chénier. Je vous invite toutes les semaines sur cette station pour la grande messe du dance, de la pop et du disco. 5 heures de musique parfaitement mixée pour votre soirée. Swish, swish, bish. Another one in the basket.
Piste de danse, animée par notre DJ, Denis Chénier.
C'est un rendez-vous.
Piste de danse, le vendredi à 18h à Unique FM.
Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension goes, the whistle blows, and the puck goes down the ice.
Salut, ici Mathieu Joseph, vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Fans all go insane. Someone roars,
Bobby scores at the good old hockey game. En s'excusant, indisponible pour nous parler de football en ce match du jeudi soir, Mark Sherbert va nous dire à la semaine prochaine, puis on lui dit évidemment à la semaine prochaine également, un beau week-end, mais il faut quand même parler de ce qui s'est passé au niveau des GGs de l'Université d'Ottawa. Le programme masculin de hockey qui traversait la dernière semaine avec 3 matchs. Il y a eu 2 défaites et 1 victoire. On fait le bilan de tout ça avec l'entraîneur-chef et collaborateur à l'émission dans le VCR, Patrick Grandmaître. Patrick, comment vas-tu?
Ça va bien, merci Nick.
Défaite de 5-0 contre l'UQTR, défaite de 5-2 contre le RMC, puis victoire de 3-0 contre Ontario Tech. Si on commence par le commencement, la défaite contre l'UQTR, on s'entend que le défi est de taille, considérant encore une fois que ce programme-là fait partie des meilleurs au pays. Là.
Oui, d'ailleurs, les Patriotes, là, ils n'ont toujours pas perdu. Ils sont classés numéro 1 au Canada. Match correct, je vous dirais. On a terminé avec plus de tirs au but qu'eux. Je pense pas que le résultat est indicatif vraiment de l'allure du match, mais il faut aller là-bas là, vraiment mériter les victoires et c'est pas ça qu'on a fait. On a rivalisé, mais c'était pas un match assez complet de notre part.
Qu'est-ce qui fait de ce club-là qu'il est si puissant en ce moment? Est-ce qu'on parle de profondeur? Est-ce qu'on parle de je sais pas, mais qu'est-ce qui explique justement le fait que l'UQTR soit si dominant?
Exactement ça. La profondeur, écoute, ils n'ont pas de faiblesse en ce moment. Là, ils ont probablement le meilleur gardien top 3 au Canada. Leur défensive, elle peut être robuste, ça peut se porter à l'attaque. Ils sont très difficiles à battre au Colisée de Trois-Rivières. C'est une vieille aréna, c'est tout petit. Eux, ils mettent beaucoup de pression, ils jouent avec de la vitesse. Puis finalement, ils ont beaucoup de punch à l'attaque. Alors, tu peux pas juste neutraliser 1 ou 2 trios. Ils ont 3 trios qui peuvent marquer des buts. Puis, ils ont un 4e trio qui est très gros, très robuste et défensif. Donc, faut vraiment un match quasi parfait, selon moi, là, pour aller les battre à Trois-Rivières.
Vous avez perdu 5-2 contre le Collège militaire Royal, une formation que vous avez gagnée contre en début de saison, 9-2. 41 lancés pour, 19 lancés contre. Je m'étais mis dans mes notes, est-ce qu'il y a peut-être eu un excès de confiance de votre part, mais considérant le nombre de lancés, qu'est-ce qui explique votre défaite?
Excès de confiance, définitivement. Deuxième chose, c'est les lancés qu'on a donnés. Ça a été des lancés très dangereux. De les 19 qu'on a donnés, 5 ont été des échappés. Je te dirais 4 échappés, 1, 2 contre 1. Qui est inacceptable. On a donné 2 buts sur notre avantage numérique. Fait que ça a été vraiment un match décevant. Là, si je regarde la défaite contre Trois-Rivières, on a retiré une coupe de positifs, mais la défaite contre le Collège Royal Militaire, il n'y avait pas de positif là-dedans. Donc, écoute, je suis content qu'on a bien rebondi pour dimanche, mais l'équipe militaire, qu'on peut s'attendre à eux à chaque match, c'est qu'ils soient au fond du tapis dans l'intensité, puis ils essaient de provoquer des erreurs, puis prendre avantage des erreurs qu'on a faites, puis ça a été le cas. Je pense pas que notre gardien a fait des gros arrêts, et puis nous, on n'a pas laissé la chance à notre gardien d'avoir plus des lancers de l'extérieur.
Si vous avez vu RMC prendre leur revanche sur vous, ben vous avez pris votre revanche sur Ontario Tech. Victoire de 3-0, alors que eux vous avez défait 5-1 en début de campagne. Donc, est-ce qu'on peut parler de ça? C'est un match revanche pour vous autres, puis vous l'avez réussi?
Oui, c'était un match très complet, là, du début jusqu'à la fin. Une victoire d'équipe où tout le monde a bien mis l'épaule à la roue. Dans notre ligue, vu qu'on joue si peu de matchs, on ne peut pas se permettre de perdre 3 matchs d'affilée. Je crois que les Sénateurs là, sont dans cette genre de suite-là. Les Sens jouent 70 plus games. Nous, on n'en joue pas assez pour perdre 3 de suite. Donc, grosse victoire, nous donner un peu de confiance là, pour les matchs qui s'en viennent demain et samedi.
Tu as parlé dans ton après-match de la constance qui fait toute la différence dans cette ligue-là. Chose dont vous avez besoin en ce moment. Peux-tu parler de cette facette-là qui reste à développer pour votre formation?
Oui, 100%. Écoute, la constance, là, on la recherche pas juste dans nos matchs, on la recherche durant nos pratiques, durant notre échauffement. On est tout le temps sur le dos de nos joueurs parce qu'on sait l'intensité que ça prend dans notre ligue pour gagner à tous les soirs ou pour se donner une chance de gagner à tous les soirs. En ce moment, là, de match en match, je ne sais pas comment on va sortir. Puis, en tant qu'entraîneur, c'est stressant ça, quand tu n'es jamais certain quelle version de ton équipe tu vas voir à chaque soir. Alors, on continue à travailler là-dessus. On enseigne beaucoup de la vidéo. On est sévère sur le sifflet durant les pratiques. Et puis, on espère là, que la progression va se continuer parce qu'on l'a prouvé. On est capable de battre les grosses équipes puis être une des très bonnes équipes dans notre division. Mais il faut apprendre à le faire à tous les soirs.
Sur l'avantage numérique, vous avez 1-11 dans ces trois rencontres-là, considérant que vous avez alloué 2 buts à l'adversaire lorsqu'il était en désavantage numérique. Est-ce qu'on doit s'attendre pour la suite des choses pour vous autres à un resserrement à ce niveau-là, une reconfiguration pour l'avantage numérique?
Oui, je dirais que le 1-11, des fois, on est tous mêlés, puis on n'est pas dangereux, et puis on se cherche. C'est pas nécessairement le cas en ce moment. On s'est fait refuser un but que, même en parlant au superviseur, après la game, là, il était d'accord que c'était pas le mauvais appel. Donc, ça aurait peut-être été 2-11. Ça va quand même pas si pire. Là. On a les solutions. Je pense que nos stratégies sont à point. Mais j'ai hâte de voir en fin de semaine. On joue contre 2 bonnes équipes qui sont bien structurées et des bons gardiens de but. Fait que ça va être intéressant de voir comment nos joueurs sur l'attaque de puissance va fonctionner.
Pour les unités spéciales, justement, comment tu es satisfait de la performance? 8e pour l'avantage numérique en ce moment. Vous êtes 9e pour le désavantage numérique à 86,4%. C'est sûr que tu vas tout le temps nous dire que vous visez le top, mais pour l'instant, est-ce que vous êtes satisfait quand même de ces chiffres-là?
On n'est pas satisfait. Notre but, nous autres, c'était d'être dans le top 5 dans les 2 catégories. Et puis, je pense que ça reflète un peu notre fiche en ce moment. Si on va chercher un but ou 2 de plus sur l'avantage numérique, puis on en accorde 1 ou 2 de moins, peut-être qu'on a seulement 1 ou 2 défaites en ce moment. Il y a toujours place à amélioration. Mais je pense que on n'est pas de la manière que je vois la vidéo, on n'est pas en recherche de se trouver. Je pense qu'on est là, on a les chances, on a les ouvertures. Les gars, ils comprennent les prises de décision qu'ils ont à prendre selon ce qu'on nous donne. Donc, j'ai hâte de voir comment est-ce qu'on continue à progresser.
Le site de la OUA a donné le titre de gardien de la semaine à votre gardien Sbaraglia, qui était devant la cage pour votre victoire de 3-0. Est-ce qu'on peut parler de la qualité de votre gardien?
Oui, Christian, écoute, on ne se cachera pas, en début de saison, on était habillé comme 3e gardien. On a beaucoup aimé comment il a répondu à l'appel quand on est allé jouer contre l'Université Cornell. Il s'est fait bombarder. Et puis, si c'était pas de lui, là, le score a été sûrement encore un plus gros écart. Travaille très fort, il a mérité sa chance. Puis écoute, il a obtenu un blanchissage à son premier départ au hockey universitaire, un départ officiel là, dans notre ligue. Christian, c'est un gardien calme et positionnel. C'est pas quelqu'un qui se lance de gauche et à droite puis essaye de faire des arrêts acrobatiques. C'est plus un gars qui a une bonne lecture de jeu et puis qui est patient et essaie de laisser la rondelle le frapper. Donc, on va retourner avec lui pour le match de demain en espérant là, qu'il va continuer sur cette bonne avenue.
Ben, tu vas répondre partiellement. Ben, tu as répondu partiellement à ma réponse parce que j'allais te demander, avec ce résultat-là, est-ce que ça change un peu la hiérarchie devant le filet pour vous autres?
Ben, en ce moment, écoute, on a la philosophie de celui qui gagne et qui joue bien, il va continuer. Donc, Christian a très bien joué lors de son dernier match. Et puis, Jean-Philippe Tourigny aussi a quand même bien fait à Trois-Rivières contre un adversaire très, très relevé. Fait que demain, là, on va y aller avec Christian Sbaraglia va commencer puis JP va le seconder.
Bon, ben à suivre, mais ça semble être chaud devant le filet pour les GGs. Vu que tu es là, j'ai pas le choix de te parler des Sénateurs. Tu l'as mentionné tantôt, on traverse une séquence de 3 défaites de suite. C'est une équipe qui semble avoir certaines lacunes. Et une des lacunes qu'on a notées, c'est DJ Smith qui l'a dit, l'incapacité de bien terminer les périodes, mais surtout les rencontres. Je pose la question, je vais poser la même question à Jacques Martin tantôt. Selon toi, les fins de match comme ça, la protection du fin de match, c'est plus au point de vue mental ou au point de vue technique que ça se passe?
C'est mental. Écoute, les erreurs qu'ils ont commises là, sur les buts contre le Lightning du Tampa Bay, là, je me souviens du but égalisateur et du but de la victoire. Ça commence, il y a beaucoup de monde qui blâme Thomas Chabot sur le but gagnant. Moi, je regarde en zone offensive, ce tout-là, il avait plein contrôle de la rondelle en bas de zone, puis il a essayé de faire une passe transversale d'un bord à l'autre, qui a frappé à la bande, que c'est allé au défenseur 26, Brandstrom, mais après ça, ça a été la relance, on se retrouve dans notre zone. Tu sais, il n'y a pas juste une erreur qui arrive, il y a une cascade d'erreurs qui arrive.
Ouais.
C'est ça que c'est. En fin de match, en fin de période, on doit resserrer le jeu. On doit être encore plus attentionné à nos revirements et notre positionnement défensif et on doit gagner nos batailles. C'est pur et simple. Moi, c'est ça que je vois en ce moment. Ils se font battre ou ils prennent des mauvaises décisions avec la rondelle.
Ça semble tellement simple quand on le dit, mais quand on le met en pratique, ça semble tellement compliqué. On va souhaiter qu'on retrouve le chemin de la victoire ce soir contre les Golden Knights. Je suis sûr que tu vas écouter le match, alors je te souhaite un bon match ce soir. On rappelle que demain, les GGs rencontrent Concordia. Par la suite, samedi, c'est contre McGill. C'est votre menu cette semaine. On fera un bilan de tout ça la semaine prochaine à notre prochaine rencontre. Coach Patrick Grandmaître, merci beaucoup. Bonne chance, bon week-end.
Merci beaucoup, Nick.
Patrick Grandmaître, mesdames et messieurs, entraîneur-chef du programme masculin des GGs de l'Université d'Ottawa en hockey. Est-ce qu'on va à une pause ou on va tout de suite rejoindre JP ou on va JP tout de suite? On va chercher JP Ford, mesdames, messieurs, un des deux JP pour la brigade. Cette semaine, une émission originale, je crois. JP Ford, comment vas-tu? Oh, JP Ford, non, pas tout de suite, alors on nous dit d'attendre. Alors, on va attendre. Pas compliqué. Oui. La brigade qui est diffusée du lundi au... tous les lundis... on va recommencer. Tous les vendredis, pardon, de 16 à 17 heures... de 17 à 18 heures. Et mon doux Seigneur, on est jeudi, c'est la fin de la semaine. Alors, je reprends ça. La brigade diffusée tous les vendredis de 17 à 18 heures, tout de suite après l'émission dans le vestiaire en formule des meilleurs moments. Il est là, l'un des co-animateurs de la brigade. On va le rejoindre, JP Falk. JP, comment vas-tu?
Ryan Reynolds, Nicolas.
Hey, j'espère qu'on va arrêter d'en parler. Non, mais considérant qu'à Ottawa, quand on a vu le dernier passage, attends une minute, là, durant qu'il y avait une télé-réalité, ça, je me souviens, j'en revenais pas, on faisait pic-pic. Quand Gene Simmons est venu avec sa femme ici, là, puis c'est une couple d'années passées, là, pas une, deux front pages dans le Sun ce semaine-là, qui disait, il parlait du passage de Gene Simmons. Je m'ai dit, faut-tu pas être assoiffé de grandes stars pour parler de même à qui mieux? Il me semble qu'il y a des affaires pires que ça, puis plus important d'en parler. Alors là, je suis en train de revivre ça dans les dernières 48 heures. On n'arrête pas de parler de Ryan Reynolds. Puis tout ce qu'il a fait, c'est mis deux gros yeux sur son compte Twitter pour dire, m'a peut-être checké ça. Avant de penser que Ryan Reynolds est le nouveau propriétaire, on va se garder une petite gêne.
Non, on pense à rien, mais on peut pas s'empêcher de se dire que ça serait beau pour les Sénateurs d'Ottawa.
Oh, que ça serait beau. Oh, ça serait cute. C'est sûr que ça serait cute. Ça mettrait, c'est sûr, les Sénateurs sur la map.
Exact, exact.
Trouves-tu, par exemple...
On serait ailleurs.
Ouais, on serait ailleurs, on atteindrait un autre niveau, puis en tout cas, on aurait certainement beaucoup d'entertainment autour du match et autour de la patinoire. Mais tes impressions suite à l'annonce de cette mise en vente pour les Sénateurs, il n'y a pas de surprise là, pareil. Là.
Il n'y a pas de surprise. Moi, je suis même à la limite surpris que ça ne s'est pas fait plus vite. y a peut-être une logique que je ne saisis pas. Là. On voulait commencer la saison, on n'était pas prêt. Je pourrais vraiment pas dire, mais que les Sénateurs soient en vente, ça ne surprend personne, on va se dire. Mais j'espère que ça ne traînera pas trop longtemps, par exemple.
C'est là où j'ai peur. J'espère qu'on ne fera pas des choses en longueur, mais j'ai l'impression que la raison pourquoi on a pris tant de temps avant d'annoncer la vente, c'est peut-être que justement, on a mis la table, on a fait nos devoirs, puis là, on est prêt à passer à l'autre étape pour faire provoquer les choses. C'est le même que je le vois, en tout cas.
Est-ce que le travail de Pierre Dorion cet été était justement la table pour mettre l'équipe en vente?
Je ne le sais pas, mais j'ai hâte de voir jusqu'où lui... Il aura les coups d'effrange parce que du moment qu'on va procéder à la transaction, comment lui va pouvoir procéder dans un contexte de vente? Ça ne doit pas être facile, mais ça, c'est pour une autre fois. On va attendre de voir qui seront les heureux élus. Mais cependant, il y a un match à jouer ce soir, puis le fait d'affronter les Golden Knights, ça te fait-tu peur, ça?
Les Golden Knights de Vegas? Comme une équipe bizarre pour moi, une équipe qui regroupe un Mark Stone, un Phil Kessel et un Max Pacioretty. Bon, on sait que Pacioretty ne joue pas, mais
ouais.
Si je t'avais dit ça il y a quelques années, m'aurais-tu cru?
Ça aurait été difficile de te croire. Mais c'est une équipe. Mais avoir justement l'âge, la composition de cette équipe-là, c'est une équipe qui est bâtie pour gagner là. On ne parle pas à l'avenir, là, c'est maintenant là.
Ça va être difficile, mais par contre, les Sénateurs ont besoin de nous montrer ce soir qu'ils sont capables de compétitionner avec les Golden Knights de Vegas, selon moi. Je veux pas voir des 50 tirs au but ce soir-là.
Es-tu d'accord avec tout ça qui retrouve DeBrincat et Giroux?
Je pense que oui. Puis je suis d'autant plus curieux de voir ce que Shane Pinto va être capable de faire avec Brady Tkachuk et Drake Batherson. En fait, je suis curieux, on en parlait, on a enregistré pour le prochain épisode, puis on en parlait justement. J'ai hâte de voir, est-ce que Shane Pinto va être en mesure de sauter sur l'opportunité, veut pas, qu'est la blessure de Josh Norris? Ça m'intrigue beaucoup. Qu'est-ce qu'on va en faire, ça sera à voir, là. Mais oui, moi, je suis content de voir. Ben, en tout cas, j'espère vraiment que ça va kicker avec tout cela ce soir. Vraiment.
Mais c'est un bon point que tu amènes. Puis entre tout cela et Pinto, celui qui se rapproche plus de ce qu'est un Norris, je pense que Pinto a plus le profil d'un Norris qu'un Stutzla. Puis Stutzla, je le vois plus d'un gars qui se complique les choses en voulant trop en faire, puis envoie donc, puis il est beau dans les zigzags, mais il me semble qu'il se complique les affaires. Alors que Pinto va être un gars qui, en tout cas pour moi, plus dans le style des deux autres.
Oui, je suis d'accord. Stutzla, je pense que c'est la maturité qui va finir par avoir raison de lui, mais il est le fun à avoir joué, par exemple. On ne peut pas se le cacher.
Ah, il est le fun à avoir joué, mais les résultats ne sont pas là. Alors, ne perdons pas espoir. On sait tous qu'il a la qualité et tout ça. Alors, voyons ce qui va se passer. Zaitsev avec Holden, Brännström avec Chabot. Le duo le plus stable en ce moment depuis le début de la campagne, c'est celui de Sanderson et de Hamonic. Parle-moi de la qualité de ces deux-là.
Moi, j'aime voir Brännström, mais j'aimerais voir... pas Brännström. J'aime le jeu de Sanderson, mais j'aimerais voir son temps de glace peut-être augmenter pour voir celui de Thomas Chabot diminuer.
On en a parlé cette semaine, ça. Oui.
Ouais. Il semble qu'on est peut-être rendu là. Je sais pas. Je sais pas pourquoi pas. Mais Holden Zaitsev, moi, là, j'ai des questions là-dessus, là.
J'aimerais peut-être qu'on fasse appel à un jeune de la Ligue américaine, mais pour l'instant, on garde ça de même. Anyway, une formule originale cette semaine? Peux-tu nous en parler?
Non. Cette semaine, c'est encore une reprise, mais la semaine prochaine, originale, on reçoit Stephen McDonald. Ça, Stephen McDonald, nice. Si vous ne savez pas qui il est un des deux individus derrière la campagne Alfie to the Hall. Il va tout nous raconter comment ça a parti cette affaire-là, comment il est entré en contact avec Cyril Leader, comment ça l'a emmené à Craig Mediglia et comment ça a créé le phénomène qu'on a vu éclore il y a quelques mois passés. Là.
Incroyable. Ben, tant mieux. Puis une belle histoire, certainement. On écoute ça dans La Brigade. C'est diffusé de 17 à 18 heures ce vendredi. Il ne faut pas manquer ça. Puis entre-temps, échanger avec la gang sur Twitter, sur Facebook, puis toutes les plateformes, ils sont là. Merci, JP. Bon match ce soir, puis on se dit à la semaine prochaine.
Bon match, Nicolas.
Salut, mon ami. JP Ford, mesdames, messieurs, avec JP Fortin. Ça complète l'émission. Version écourtée, parce que là, dans quelques instants, on fait place à l'avant-match du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Soirée hommage aux forces canadiennes. Les Sénateurs embarquent pour l'échauffement d'avant-match avec leur chandail à l'effigie des forces. Et pour nous, Mais on se dit merci d'avoir été les nôtres. Merci à tous nos collaborateurs aujourd'hui. Pat Grandmaître, JP Forg, Jacques Martin, Renaud Lavoie. Mark Scheibert avait une urgence à régler. On s'excuse, puis on se dit à la semaine prochaine, puis surtout un bon week-end. Pour nous, ben, on ferme les portes du vestiaire, on ouvre l'avant-match du hockey Véronique Le Sieur des Sénateurs qui reçoivent les Golden Knights au 94.5 Ligue FM. Merci, à tantôt.